Juliette Rangeval.
What have we seen? We've seen complete chaos in British politics. Whether you voted leave or remain, I don't think really many people voted for the ridiculous position that we're in now. And the fact
bonjour et un répit pour Theresa May à 29 jours seulement de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne. Hier, les députés britanniques ont apporté leur soutien à la nouvelle stratégie de leur première ministre sur le Brexit qui pourrait déboucher sur un report de la date du divorce. Côté travailliste, on sait que le Labour soutiendra l'idée d'un nouveau référendum. Dans les affres du Brexit, le parti a vu partir 7 élus ces 10 derniers jours, dont Shuka Umunna, parfois décrit dans la presse comme le Barack Obama britannique, Marie Billon.
Nous sommes le 18 février. Shuka Umunna entre dans une salle du Parlement remplie de journalistes. Vêtu d'un de ses habituels costard-cravate sur mesure, impeccable, le député est accompagné de 6 autres collègues. Ils viennent annoncer qu'ils quittent le parti travailliste.
Je suis Shuka Umunna. Je suis le député de Streatham, le quartier d'où je viens, où j'ai grandi. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis un quart anglais, un quart irlandais et à moitié nigérian. Ma famille est arrivée ici pleine d'optimisme et d'espoir, persuadée qu'en faisant des efforts, on peut tous mener une bonne vie au Royaume-Uni.
Le député de 41 ans explique que les partis historiques ne fonctionnent plus, qu'il faut une nouvelle manière de faire de la politique. C'est pour ça, dit-il, que lui et ses collègues ont décidé de quitter le Labour pour former un groupe indépendant de députés à la Chambre des communes. Un peu plus, et on le croirait en campagne pour devenir le chef d'un nouveau parti. Et c'est peut-être exactement ça. Je veux jouer le rôle le plus proéminent dans le groupe. Mais nous sommes tous des leaders, explique d'ailleurs Shuka Umunna sur Sky News. Il veut être le premier parmi les égaux. C'est un ambitieux qui quitte finalement le parti qu'il a un temps voulu diriger. En 2015, il est en campagne pour diriger le Labour, mais les vents lui sont défavorables. Il faut dire qu'à l'époque, il est le chantre du New Labour, le travaillisme de Tony Blair, pro-business, à droite de la gauche comme on dit, alors que le parti pousse le curseur dans l'autre sens. Finalement, c'est Jeremy Corbyn qui sera élu à la tête du parti travailliste. Shuka Umunna, lui, ne se reconnaît pas dans la formation, qui prend alors un tournant à gauche. C'est la première raison de son départ. Deuxième raison, le Brexit. Farouchement pro-européen, il est en faveur d'un second référendum et si Jeremy Corbyn est finalement prêt à soutenir un vote populaire, ce n'est pas par conviction, c'est pour éviter que d'autres députés ne rejoignent Shuka Umunna et son groupe de députés indépendants. Troisièmement, les accusations d'antisémitisme, de racisme et de discrimination au sein du parti travailliste, de la vie quasi générale, piteusement gérée par la direction. Et enfin, il se sent bien trop cool pour appartenir au Labour d'aujourd'hui. En 2013, l'acteur américain Will Smith a posté une vidéo de lui avec Shuka Umunna à Brixton, près de Streatham. Shuka Umunna, le caméléon à l'aise avec le rapport américain comme avec les conservateurs progressistes. Ces trois députés notamment qui ont rejoint son groupe d'indépendants dès le lendemain de sa création. Aujourd'hui, le parlementaire vise les jeunes, attachés au multiculturalisme, pro-européen, pro-business, opposés aux querelles de chapelle. Shuka Umunna veut renouveler l'offre politique alors que le pays en a grand besoin et pourquoi pas devenir le premier ministre du Royaume-Uni à ne pas avoir la peau blanche.
Le droit à l'avortement est toujours menacé en Pologne. C'est l'un des pays européens où le droit à l'avortement est le plus restrictif. Pourtant, depuis 1993, il n'est autorisé que dans 3 cas, viol ou inceste, danger pour la vie de la mère et malformation du fœtus. Mais ces conditions très strictes sont encore trop larges pour les nombreux militants anti-avortement. Thomas Giraudeau les a rencontrés à Varsovie.
Dans son cabinet ultramoderne, Justyna Radkiewicz reçoit une trentaine de patientes par semaine. Elles savent toutes ou presque que la gynécologue ne pratique pas d'avortement.
C'est très simple. Pour moi, l'avortement est un meurtre, rien d'autre. Quand je vois sur l'écran de l'appareil d'échographie un cœur qui bat, je vois une personne, un être vivant. Et je n'ai pas le droit d'arrêter ce cœur de battre. Je suis un docteur, je dois soigner et pas blesser.
Quand cette médecin détecte une malformation du fœtus susceptible de causer un handicap au futur bébé, elle propose de l'aide aux femmes enceintes.
Elles peuvent avoir le soutien d'un psychologue, il est d'ailleurs de l'autre côté de ce mur. Le soutien d'un prêtre, si elles le souhaitent. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont avortés même si on ne sait pas exactement ce qu'ils auront à la naissance. Est-ce que l'enfant va se développer normalement ou pas ? Personne ne veut avoir un enfant malade, je le comprends, mais cela reste une personne. On ne peut pas le tuer comme ça parce qu'il est malade.
Eva Obertenska-Romanowska a dû, elle, faire une douzaine d'IVG pour obtenir son diplôme au début des années 70. Sous l'ère communiste, les femmes avaient le droit d'avorter quand elles n'avaient pas les moyens de subvenir aux besoins du futur enfant. Depuis cette période, la gynécologue n'en a plus fait un seul. À l'entrée de sa clinique, un très grand Christ en croix accueille les patientes.
Quand une femme vient ici et veut avorter, j'essaye de la convaincre que c'est une mauvaise décision. Un bébé, c'est un cadeau, la chose la plus importante au monde. Même quand le fœtus est mal formé, c'est mieux pour une femme de donner naissance à cet enfant, de le baptiser. Il faut aller au bout de sa grossesse pour établir ce contact très important entre l'enfant et les parents, même si le bébé ne vit que quelques heures.
Dans les bureaux de la Fondation Pro Pravo do Jecia pour le droit à la vie, David Vahoviak prépare de prochaines actions. Lui et d'autres militants se rendent très régulièrement devant des hôpitaux qui pratiquent l'IVG, parfois devant des écoles. Ce père de famille déploie de grandes affiches sanglantes montrant des fœtus avortés, morts.
Ces photos ne sont pas agréables à voir, mais il s'agit de montrer la vérité. Et c'est ça la vérité de l'avortement. C'est aussi un acte brutal et violent. Pour nous, c'est très important d'aller devant les hôpitaux qui pratiquent l'IVG. Parce qu'en montrant ces photos, on peut influencer le choix de femmes enceintes. Et donc, on peut sauver des enfants.
L'homme est contre l'interruption volontaire de grossesse dans tous les cas de figure, même quand la femme enceinte a été violée.
Ce sont des cas très rares. Un avortement sur 1000 est le résultat d'un viol en Pologne. Une femme a toujours le choix. Elle peut donner naissance à un enfant et ensuite le faire adopter. Elle n'est pas obligée de le garder. Il ne faut pas oublier que les femmes victimes d'un viol sont traumatisées. Et puis, elles subissent un second traumatisme quand elles avortent.
La constitution polonaise semble être du côté des anti-avortements. Dans les années 90, le tribunal constitutionnel a déjà censuré une loi visant à le rendre plus accessible. Rosalia Kilmans-Ratenska est juriste au sein d'Ordo Iuris. Cet institut est à l'origine d'un projet de loi débattu en 2016. Son but, interdire totalement l'IVG en Pologne. Face aux manifestations, le projet a été abandonné.
Dans la Constitution, c'est écrit clairement, l'État doit protéger la vie de chaque être humain à chaque étape de la vie. Et le droit à la vie commence au moment de la conception. Notre proposition en 2016, appelée Stop Avortement, montrait très clairement que les trois exemptions au droit à la vie, celles qui permettent aujourd'hui d'avorter en Pologne, sont inconstitutionnelles.
De plus, depuis 2015, les gynécologues refusant de pratiquer l'IVG ne sont plus obligés de renvoyer leurs patientes vers un confrère qui l'effectuera. Des lois restrictives, des médecins utilisant massivement leur clause de conscience, ils sont plus de 4000, des militants manifestant devant les hôpitaux. Dans ce contexte, il est très difficile d'avorter en Pologne, même seule, par voie médicamenteuse. Natalia Broniarczyk en a fait l'expérience il y a 6 ans.
Beaucoup de femmes ne reçoivent pas les pilules abortives qu'elles ont commandées parce qu'elles sont bloquées à la frontière par les douanes. J'ai trouvé le numéro d'une hotline, un forum féministe sur le web. Je l'ai appelé le jour suivant et 3 jours plus tard, j'ai reçu mon colis. Ils m'ont trouvé quelqu'un dans un autre pays qui a réempaqueté et renvoyé mon colis. Par exemple, il part de l'Inde et passe par l'Allemagne avant d'arriver en Pologne. Là, le colis franchit les douanes.
Depuis, Natalia a fondé une association qui veut dédramatiser l'IVG, déculpabiliser les femmes, leur expliquer que, quelle que soit leur raison, les Polonaises qui avortent ne peuvent pas être condamnées. Mais les militants pro-vie sont proches de l'emporter. Tôt ou tard, pour Natalia, la Pologne interdira totalement l'avortement. D'après un sondage publié l'an dernier, seuls 11% des Polonais interrogés souhaitent une restriction du droit à l'IVG.
En Allemagne, la question de l'avortement est toujours sensible. Témoin la révision du paragraphe 219A du code pénal allemand. Un article hérité de l'Allemagne hitlérienne qui interdit aux médecins d'informer sur leur pratique de l'IVG. Une révision était réclamée par de nombreux praticiens. Elle a été repoussée à plusieurs reprises et finalement obtenue à minima, symbole d'un droit à l'avortement toujours à conquérir pour les Allemandes. À Berlin, le reportage de Julien Méchaussy.
Hallo? Frau Marschall? Also Quartier de Kreuzberg, il est à peine 10h et en ce jour de semaine, la salle d'attente du cabinet du docteur Zoë Layandi est déjà bien remplie.
Notre cabinet est connu pour procéder à des interruptions de grossesse sans que cela ne soit indiqué sur notre site internet et nous recevons régulièrement des mails à caractère haineux. Nous nous faisons traiter d'assassins d'enfants. Il y a aussi des menaces de poursuites judiciaires, voire pire. Mais je n'ai pas peur. Il faut vivre avec. Malheureusement, je pense que nombre de médecins se laissent intimider par ces personnes.
S'il ne remet pas en cause le droit à l'avortement, le paragraphe 219A du code pénal allemand empêche les médecins comme Zoë Layandi d'informer sur leur pratique de l'IVG. Dénoncé par de nombreux responsables politiques, cet article date de 1933, peu après l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Le SPD, le Parti social-démocrate, a un temps exigé sa suppression, mais par peur de mettre en danger la grande coalition au pouvoir avec les conservateurs de la CDU, les sociaux-démocrates ont reculé, ce qui a provoqué la colère des autres partis, notamment des libéraux. Katia Zuding, députée du FDP, fait partie de ces élus révoltés par les arguments de ceux qui défendent ce paragraphe.
C'est une image tellement rétrograde de la femme. Comment peut-on oser affirmer que le simple accès à l'information pousserait les femmes à procéder à une interruption de grossesse? C'est n'importe quoi. Il est du devoir des médecins, des gynécologues, d'informer leurs patients de manière neutre. Et cela doit aussi être possible sur Internet. Nous devons supprimer ce paragraphe pour enfin sortir de cette situation inacceptable.
C'est un jugement rendu l'an dernier qui a remis l'avortement au centre des discussions. Une gynécologue a été condamnée à 6 000 € d'amende pour avoir simplement écrit sur son site internet qu'elle réalisait des avortements. Depuis, elle est devenue l'icône du droit à l'avortement en Allemagne, un droit que défend aussi Zoë Layandi. Alors, pour éviter de tomber sous le coup du paragraphe 219A, Zoë Layandi compte sur le bouche à oreille.
La plupart des femmes nous appellent et nous convenons rapidement d'un rendez-vous au téléphone. Avant qu'elles viennent nous voir, nous les orientons tout d'abord vers un bureau du planning familial. C'est une étape très importante. Elles y bénéficient de conseils. Elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules et c'est capital avant de venir dans un cabinet médical. Et heureusement, ici à Berlin, elle profite d'un accès facile à ces informations.
Car comme souvent en Allemagne, pays fédéral, les disparités sont grandes, selon les Länder. Le Sénat de Berlin contourne ainsi la législation, des listes de médecins qui pratiquent l'avortement sont publiées et des centres de conseils indépendants sont financés. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Bavière, où l'influence de l'Église reste très importante.
Nous avons beaucoup de patientes de Bavière qui viennent jusqu'ici à Berlin, car en Bavière, des organisations religieuses se cachent très souvent derrière les bureaux d'information. Et quand les femmes en sortent, elles sont persuadées qu'elles sont des meurtrières en puissance. Une fois ici, nous les rassurons, nous les accompagnons jusqu'à l'avortement sans qu'elles ne culpabilisent. Aucune femme ne prend cette décision à la légère. Je n'ai jamais vu une femme ici, claquer des doigts et me dire « enlevez-moi mon enfant ». Informer permet aussi de prendre en compte la détresse de ces femmes.
Face à la polémique, le ministre conservateur de la Santé, Jens Spahn, a mis 5 millions d'euros sur la table pour financer une énième étude sur les conséquences psychologiques d'un avortement chez les femmes. Une proposition insoutenable, selon Katia Zuding.
Il existe déjà une multitude d'études sur le sujet. Nous n'avons en aucun cas besoin de nouveaux travaux. À mes yeux, il s'agit uniquement d'une nouvelle tentative de moraliser l'interruption de grossesse, de montrer du doigt ces femmes en situation de détresse. C'est pour cela que nous rejetons en bloc cette proposition.
Soutenue notamment par le parti écologiste, Katia Zuding et les libéraux ont annoncé vouloir aller jusqu'à la Cour constitutionnelle pour obtenir enfin la suppression du paragraphe de la discorde.
Voulez-vous prendre ceci, je vous prie? Ce sont des pilules, ça vous soignera. Ouvrez la bouche. Tenez.
Un peu d'air pour les hôpitaux français. Après 8 ans de baisse consécutive, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé cette semaine une hausse des tarifs hospitaliers, 2 milliards d'euros supplémentaires qui vont être ajoutés au budget des hôpitaux. Les Français sont très attachés, on le sait, à leur système de santé. Avec Daniel Vigneron du site myeurope.info, nous allons nous pencher sur ce système de santé comparé aux autres systèmes européens grâce aux travaux d'un think tank suédois, Health Consumer Powerhouse. Il publie tous les ans un indice européen de la consommation de santé, l'indice EHCI. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
En quoi il consiste cet indice, Daniel ? On peut s'y fier ?
Eh bien, cet indice est construit à partir de 50 critères classés en 6 thématiques. Information et droits des patients, accès aux soins, résultats des traitements, variété des services offerts, prévention et utilisation des produits pharmaceutiques.
Selon ce classement, la France bénéficie-t-elle du meilleur système de santé ?
Si l'on en croit l'indice EHCI, ce fut le cas dans le passé. En 2006, le système français apparaissait à la première place des 28 pays européens alors examinés. Mais 12 ans plus tard, en 2018, alors que le nombre de nations étudiées est passé à 35, soit les membres de l'Union européenne plus la Suisse, la Norvège, l'Islande et plusieurs pays des Balkans, eh bien l'Hexagone est tombé à la 11e place du classement.
Qui sont les meilleurs du coup et quels sont les pays qui déçoivent ?
Pour la première fois depuis de longues années, les Pays-Bas laissent la première place à la Suisse qui atteint une performance de 893, chiffre très satisfaisant puisque l'excellence absolue se situe à 1000. Par comparaison, le pays doté en Europe du système de santé le moins performant, l'Albanie, réalise un score de 544 seulement. Outre les deux champions évoqués, on retrouve dans les 12 premiers les pays scandinaves, la Belgique, l'Autriche et l'Islande. L'Allemagne, classée l'an dernier à la 7e place, recule à la 12e, juste derrière la France. Mais d'autres voisins sont plus mal classés. Le Royaume-Uni, 16e place, l'Italie et l'Espagne, 19 et 20e place. Sauf pour la République tchèque, la totalité des pays de l'Est européen se situe dans la seconde moitié du classement.
Il y a plusieurs thématiques. Est-ce qu'on peut les détailler ?
Sur l'information et les droits des patients, Pays-Bas et Norvège sont les mieux notés, la France ne se plaçant qu'en milieu de classement dans ce domaine, derrière même le Royaume-Uni. Cela dit, le système français reste à cet égard satisfaisant. En termes d'accessibilité aux soins, la France se classe 5e, derrière la Suisse et la Belgique, mais devant tous les autres grands pays européens. L'Hexagone finit tout aussi bien à la 3e place quant à la disponibilité et à l'usage des médicaments, avec toutefois un point noir, le recours excessif aux antibiotiques. Mais la France est médiocrement notée au 19e rang seulement en matière de prévention, spécialement dans la lutte contre l'alcoolisme. Tous ses voisins, y compris l'Italie et l'Espagne, ont une meilleure prévention.
Et si on parle de l'efficacité des soins ?
La France se place à la 12e place, c'est-à-dire honorablement, mais derrière l'Allemagne et à égalité avec l'Italie et assez loin des Pays-Bas, de la Suisse et du Danemark. Par exemple, en termes de traitement des AVC, le système français se montre efficace, tout comme les systèmes allemands ou italiens. La prise en charge du cancer est également excellente, avec un taux de survie de près de 70%, un peu inférieur toutefois à ce qu'il est en Suisse, en Irlande ou en Norvège. Quant au temps d'attente pour une opération chirurgicale, il est raisonnable en France, mais Allemagne et Belgique font beaucoup mieux. Pour ce qui est des infections durables contractées à l'hôpital, celles qu'on appelle nosocomiales, la France n'apparaît qu'en milieu de classement. Autre point noir de l'Hexagone, les dialyses à domicile qui ne représentent que 7% des dialyses contre 25% en Scandinavie.
Alors en France, est-ce qu'on est bien placé en termes de prise en charge des soins ?
À 78% de taux de prise en charge, la France est dans la bonne moyenne et le pays fait mieux à cet égard que l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne. Mais Suède, Danemark et Pays-Bas sont à 85%.
Conclusion, Daniel, est-ce que la France peut mieux faire ?
Sans doute, mais pas en dépensant plus puisque à 11% de dépenses de santé par rapport au PIB, elle se situe juste en dessous du niveau allemand, mais un peu devant les dépenses néerlandaises ou danoises. En Europe, seule la Suisse dépense sensiblement plus, 12,4% de sa richesse nationale. En résumé, le système français de santé tient la route et son prix est justifié. Mais prétendre qu'il est le meilleur du monde, bah, c'est de la forfanterie à la française.
Merci Daniel, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous suivez, vous nous réécoutez sur les réseaux sociaux et sur notre site rfi.fr. On se retrouve ici demain à la même heure.